Je repris la Mercedes de ma mère et roulai quelques kilomètres sans trop savoir où aller. La visite au photographe m'avait laissé sur ma faim. Peut-être que je faisais fausse route, mais je me devais d'explorer cette piste jusqu'à son terme. Il fallait que je trouve l'identité de l'homme sur la photo. À Bio, je dépassai le terrain de golf pour arriver au rond-point de la Brague. Au lieu de continuer vers le vieux village, j'attrapai la route d'école, celle qui menait à Sofia Antipolis. Une sorte de force de rappel me ramenait au lycée Saint-Exupéry. Ce matin, je n'avais pas eu le courage d'y affronter les fantômes dont j'avais trop longtemps nié l'existence. En chemin, je repensais aux différentes photos que j'avais vues chez Dalla Negra. L'une d'entre elles m'avait particulièrement déstabilisé. Celle d'un fantôme, justement. Jean-Christophe Graff, mon ancien professeur de français. Je clignai des yeux. Les souvenirs revenaient avec leur cortège de tristesse. Monsieur Graff était l'enseignant qui m'avait orienté dans mes lectures et m'avait encouragé dans l'écriture de mes premiers textes. C'était un mec bien, subtil, généreux. Un grand échalas au visage délicat, presque féminin, qui portait toujours une écharpe, même en plein été. Un prof capable d'analyse littéraire brillante, mais qui paraissait en permanence un peu perdu, à côté de la réalité. Jean-Christophe Graff s'était suicidé en 2002, déjà 15 ans. Pour moi, il représentait une nouvelle victime de la malédiction des gentils. Cette loi injuste, ce sale destin qui accablait certaines personnes un peu trop fragiles, qui avaient comme seul tort d'essayer de bien se comporter avec les autres. Je ne savais plus qui avait prétendu que les hommes ne reçoivent du destin que ce qu'ils sont capables d'endurer, mais c'était faux. Le plus souvent, le destin est un salopard pervers et vicieux qui prend son pied en broyant la vie des plus faibles, alors que tant de connards mènent une existence longue et heureuse. La mort de Graff m'avait anéanti. Avant de se jeter de la terrasse de son immeuble, il m'avait écrit une lettre très émouvante que j'avais reçue à New York une semaine après sa mort. Je n'en avais jamais parlé à personne. Il m'y confiait son inadaptation à la cruauté de la vie et m'avouait crever de son isolement. Il évoquait sa désillusion de constater que les livres qui l'avaient souvent aidé à traverser des périodes noires n'arrivaient plus aujourd'hui à lui maintenir la tête hors de l'eau. Avec pudeur, il me racontait qu'un grand amour non partagé lui avait brisé le cœur. Dans les dernières lignes de son courrier, il me souhaitait bonne chance dans la vie et m'assurait qu'il ne doutait pas une seconde que je saurais réussir là où il avait failli. La quête victorieuse d'une âme sœur pour affronter les turbulences de l'existence. Mais lui aussi se faisait des illusions sur mes capacités, et dans mes jours sombres, il m'arrivait de plus en plus souvent de penser qu'il n'était pas impossible que je termine comme lui. Je me forçais à chasser ses idées dépressives en arrivant dans la Pinède. Cette fois, je ne m'arrêtais pas devant chez Dino, mais je poussais jusqu'à la guérite de l'entrée du lycée. D'après son physique, le gardien devait être le fils de Pavel Fabianski. Le jeune type regardait des vidéos de Jerry Seinfeld sur son téléphone. Je n'avais pas de badge, mais je le baratinais en affirmant que je venais prêter main forte pour les préparatifs de la fête. Il m'ouvrit la barrière sans chercher à en savoir davantage et retourna à son écran. Je pénétrai dans le campus et, quitte à bafouer les règles, j'allais me garer directement sur la dalle en béton face à l'agora. J'entrai dans le bâtiment, sautai par-dessus le portillon de la bibliothèque et débarquai dans la salle principale. Bonne nouvelle, Zélie n'était pas dans les parages. Une affichette épinglée sur le panneau de Liège rappelait que les séances du club de théâtre dont elle était la grande prêtresse se tenaient les mercredis et samedis après-midi. Derrière la banque de données, une jeune femme à lunettes avait pris sa place. Assise en tailleur sur sa chaise de bureau, elle était plongée dans l'édition anglaise de On Writing de Charles Bukowski. Elle avait des traits doux et portait un chemisier marine à col Claudine, un short en tweed, des collants plumettis et des derbies bicolores. « Bonjour, vous travaillez avec Hélène Boekmans ?» Elle leva les yeux de son livre et me regarda en souriant. D'instinct, cette fille me plut. J'aimais son chignon strict qui contrastait avec le diamant dans sa narine, les arabesques tatouées qui couraient derrière son oreille pour redescendre et se perdre sous le col de son chemisier, le mug dans lequel elle buvait son thé, barré de l'inscription « Reading is sexy ». C'était quelque chose qui m'arrivait rarement. Rien de comparable à un coup de foudre, mais quelque chose qui me faisait dire que la personne en face de moi était dans mon camp et pas dans celui de l'adversaire, ni dans l'immense no man's land peuplé de tous ces gens avec qui je ne partagerai jamais rien. « Je m'appelle Pauline Delatour », se présenta-t-elle. « Vous êtes un nouveau professeur ?»« Pas vraiment, je suis... Je plaisante, je sais qui vous êtes. Thomas de Galet. Tout le monde a vu que vous étiez là ce matin sur la place des Marronniers. » « J'ai été élève ici il y a longtemps, expliquai-je. Peut-être même avant votre naissance. » « Là, vous exagérez. Et si vous voulez me faire un compliment, il faudra vous fouler un peu plus. » Pauline Delatour replaça une mèche de cheveux derrière son oreille en riant et décroisa les jambes avant de se lever. Je crus mieux cerner ce qui m'avait plu en elle. Elle conjuguait des choses qui allaient rarement de pair. Une sensualité assumée, mais sans une once de prétention. Une vraie joie de vivre et une sorte de classe naturelle qui donnait l'impression que, quoi qu'elle fasse, la vulgarité n'aurait pas de prise sur elle. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?»«
D'ici ?»«
Du sud, de la Côte d'Azur ?»« Non, je suis parisienne. Je suis arrivée il y a 6 mois lorsque le poste a été créé. »« Peut-être que vous pouvez m'aider, Pauline. Lorsque j'étais élève ici, il y avait un journal du lycée qui s'appelait Courrier Sud.
Il existe toujours ?»«
Je voudrais en consulter les archives. » « Je vais vous les apporter. Quelle année vous intéresse ?»«
Disons, l'année scolaire 1992-1993. Ce serait super si vous pouviez également me trouver le yearbook de cette année-là. »«
Vous cherchez quelque chose de spécial ?»«
Des informations sur une élève qui a fréquenté le lycée, Vinca Rockwell. »«
Bien sûr, la fameuse Vinca Rockwell. Difficile de ne pas avoir entendu parler d'elle ici. »«
Vous faites allusion au livre de Stéphane Pianelli que Zélie tente de censurer ?»
Je fais surtout allusion à ces filles à papa que je croise tous les jours et qui se croient féministes parce qu'elles ont lu les 3 premiers chapitres de La Servante écarlate.
Les hétérodites.
Elles essaient de s'approprier la mémoire de cette fille pour la transformer en une figure symbolique que la pauvre Vinca Rockwell n'était sûrement pas.
Pauline Delatour pianota sur son ordinateur et nota sur un post-it les références des documents que je lui avais demandés.
Vous pouvez aller vous asseoir. Je vous apporte les journaux dès que je parviens à mettre la main dessus.
4. Je m'assis à ma place de l'époque, au fond de la salle, dans un renfoncement, tout près de la fenêtre. La vue donnait sur une petite cour carrée, totalement anachronique, avec sa fontaine mangée par le lierre et ses pavés. Entourée d'une galerie en pierre rose, elle m'avait toujours fait penser à un cloître. Ne manquaient que les chants grégoriens pour accéder à la spiritualité. Je posai sur la table le sac à dos Eastpak turquoise que j'avais récupéré chez mes parents et sortis mes stylos et mes affaires comme si j'allais rédiger une disserte. J'étais bien. Dès que j'étais entouré de livres et que je plongeais dans une atmosphère un peu studieuse, quelque chose s'apaisait en moi. Je sentais physiquement l'angoisse refluer. C'était aussi efficace que le Lexomil, mais nettement moins facile à transporter. Baignant dans une odeur de cire et de cierge fondu, cette partie de la salle, qui portait le nom pompeux de cabinet de littérature, avait gardé son charme d'antan. J'avais l'impression d'être dans un sanctuaire. Les vieux Lagarde et Michard prenaient la poussière sur les étagères. Derrière moi, une ancienne carte scolaire Vidal-Lablache, déjà démodée lorsque j'étais élève, présentait le monde des années 1950 et ses pays aujourd'hui disparus. L'URSS, la RDA, la Yougoslavie. La Tchécoslovaquie. L'effet Madeleine jouait à plein, faisant remonter les souvenirs. C'est ici que j'avais l'habitude de faire mes devoirs et mes révisions. Ici que j'avais écrit ma première nouvelle. Je repensais successivement aux paroles de mon père. Tu vis dans un monde littéraire et romantique, mais la vraie vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est violent. L'existence, c'est la guerre. Puis à cette remarque de ma mère. Tu n'avais pas de copains, Thomas. Tes seuls amis, c'était les livres. C'était la vérité. Et j'en étais fier. J'avais toujours été persuadé que les livres m'avaient sauvé. Mais est-ce que ça durerait toute ma vie? Probablement pas. Entre les lignes, n'était-ce pas l'avertissement que m'avait lancé Jean-Christophe Graff dans sa lettre? À un moment, les livres l'avaient lâché en rase campagne, et Graff s'était précipité dans le vide. Pour résoudre l'affaire Vinca Rockwell, ne fallait-il pas que j'abandonne le monde protecteur des livres pour me colter avec ce monde sombre et violent dont parlait mon père ? entre en guerre, me murmura une voix intérieure.
Voilà vos journaux et le yearbook.
La voix assurée de Pauline Delatour me ramena au présent.
Je peux vous poser une question ?
Demanda-t-elle en plaçant sur la table une brassée d'exemplaires de Courrier Sud. Vous ne me semblez pas être le genre à attendre qu'on vous donne l'autorisation.
Pourquoi vous n'avez jamais écrit sur l'affaire Vinca Rockwell ?
J'avais beau faire, j'avais beau dire, on me ramenait toujours vers les livres. Eh bien, parce que je suis romancier, pas journaliste. Elle insista. Vous voyez bien ce que je veux dire.
Pourquoi vous n'avez jamais raconté l'histoire de Vinca ?
Parce que c'est une histoire triste et que je ne supporte plus la tristesse. Il en fallait plus pour décourager la jeune femme.
Justement, c'est le privilège du romancier, non ? Écrire des fictions pour défier la réalité. Pas simplement pour la réparer, mais pour aller la combattre sur son propre terrain. L'ausculter pour mieux la nier. La connaître pour, en toute conscience, lui opposer un monde de substitution.
C'est de vous, cette petite tirade ?
Non, bien sûr. C'est de vous ? Le truc que vous ressortez une fois sur deux dans les interviews. Mais c'est plus difficile de l'appliquer dans la vraie vie, n'est-ce pas ?
Et elle me planta là, sur ses bonnes paroles, satisfaite de son petit effet.